RFI, les 9h10 à Paris, je vous laisse en compagnie de Juan Gomez.
8h10 en temps universel, c'était le journal de Grégory Lesca.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'élection du président de la Confédération africaine de football. Cela fait maintenant un peu plus de 2 heures que les présidents des 54 fédérations du continent sont réunis en Assemblée Générale à Addis Abeba. Et toute la question évidemment est de savoir si après 29 ans de présidence, Issa Hayatou sera reconduit dans ses fonctions pour un 8e mandat. Alors certes, il y a peu de suspense, soyons honnêtes, mais pour la première fois, l'inamovible Hayatou a face à lui un rival, Ahmad Ahmad, le président de la Fédération malgache de football, qui se présente comme le candidat du changement, de la modernité et de la transparence. Alors dites-nous si vous êtes pour ou contre un nouveau mandat d'Issa Hayatou. Le débat a déjà commencé sur la page Facebook de l'émission, plusieurs centaines de réactions, j'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Et d'ici là, d'ici les 30 prochaines minutes, appelez-nous, nous vous donnerons la parole. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vous le savez, tous les matins, nous commençons l'émission avec vos questions. Et on va commencer justement avec une question sur cette élection du président de la CAF. Fadel nous appelle de Port-Gentil au Gabon. Bonjour Fadel.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Monsieur Ahmad, président de la Fédération malgache de football, brigue la présidence de la Confédération africaine de football face à Issa Hayatou. Alors, quel est le parcours de M. Ahmad? Et vu qu'il n'est pas connu du grand public, est-ce que cette candidature représente une véritable opposition face au président sortant Hayatou?
Ouais, vous avez raison de dire qu'il est peu connu du grand public. Il est aussi peu connu hein, dans le milieu du ballon rond. On se souvient que l'annonce de sa candidature il y a 3 mois avait créé la surprise. Bonjour Christophe Jousset.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, envoyé spécial d'RFI, où se déroule justement en ce moment l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Quel est le parcours de celui qui a, allez, je vais être un peu ironique et un peu provocateur, celui qui a eu le culot d'oser détrôner Issa Hayatou?
Écoutez, cet Ahmad en question, à 57 ans, il a derrière lui et il mène encore une carrière politique. Il a été ministre des Sports dans son pays, à Madagascar, puis il a eu le portefeuille très important sur la grande île de la pêche, et actuellement il est sénateur. Et au niveau du football, il est essentiellement président de la Fédération malgache depuis, d'ailleurs un troisième mandat est en cours. Alors, il a progressé dans la hiérarchie africaine au niveau du football en 2013, en entrant au comité exécutif de la CAF, et aujourd'hui, il est explique que suite à ça, plusieurs présidents de fédérations sont venus le voir, l'ont sollicité pour qu'il se lance dans la course à la présidence de la CAF. Le président du Nigeria, par exemple, en tout cas le président de la fédération nigériane, pas mal de pays anglophones d'ailleurs. Hein, et puis, il s'est déclaré officiellement le 13 janvier, il s'est lancé dans la course à la veille de l'ouverture de la CAN. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se disait, qui est cet inconscient qui se lance à l'assaut de la forteresse Issa Hayatou? De se précarer, et puis petit à petit, eh bien, les sourires se sont un peu estompés. Il y a eu quelques signes, peut-être pas d'inquiétude, mais en tout cas de méfiance vis-à-vis de la CAF. On pense notamment à cette réunion qui s'est, en tout cas ce regroupement qui a eu lieu à Harare il y a quelques semaines. Il y avait là plusieurs présidents de la Confédération d'Afrique australe. Vous savez que le COSAFA regroupe 14 fédérations africaines. C'est la zone de Madagascar. Et il y avait plusieurs présidents de fédérations du COSAFA. Il y avait également présent dans ce regroupement Gianni Infantino, le président de la FIFA, dont le rôle, dont l'influence dans la campagne n'est peut-être pas neutre. Beaucoup estiment qu'il joue le jeu du camp d'Ahmad. Et à ce moment-là, donc au moment de cette réunion à Harare, Il y a eu un rappel à l'ordre qui est venu de la CAF en estimant que cette réunion, qui avait été présentée d'ailleurs par le président de la Fédération zimbabwéenne comme un moment privé pour fêter son anniversaire. Ah. La CAF avait rappelé les participants à l'ordre en disant que ce n'était pas c'était contraire au statut. Donc la candidature Ahmad a pris un peu d'épaisseur, il a revendiqué les 14 voix du COSAFA, Djibouti a dit qu'il voterait pour lui, et puis ces derniers jours, jusqu'à hier soir tard, il y a eu des tractations, des négociations, dans les hôtels notamment, vous savez souvent ça se passe dans les hôtels, les derniers moments de ce genre d'élection.
Oui, notamment, en l'occurrence, Ahmad était, lui, à l'hôtel Radisson Blue d'Addis Abeba, où il recevait et tentait jusqu'à la dernière minute de négocier, évidemment, son élection. Concrètement, quelles sont ses chances de détrôner Issa Hayatou ? Rappelons aux auditeurs que ce sont les présidents des fédérations qui votent, et il faut 28 voix pour être donc élu président de la CAF.
Oui, c'est ça. Il devrait y avoir 54 votants. Les délégués ont été appelés par le secrétaire général il y a quelques minutes là, à l'intérieur du grand hall Nelson Mandela, ici au siège de l'Union africaine. Très très belle salle, majestueux pour un moment très solennel. Tous les délégués ont été appelés et l'Érythrée, c'est important de le noter, est présente. Hein. Il y avait un doute compte tenu des relations entre l'Érythrée et l'Éthiopie. L'Érythrée va donc bien voter. Alors quelles sont les chances d'Ahmad? Comme toujours, c'est compliqué de prévoir, parce qu'il peut y avoir eu des promesses, mais elles ne sont pas forcément tenues. D'ailleurs, Issa Hayatou est bien placé pour le savoir, puisque en 2002, quand il s'était lancé dans la course à la présidence de la FIFA contre Sepp Blatter, le jour du vote à Séoul, il avait été très surpris du peu de voix de promesses qui avaient été tenues. Il avait été battu à plate couture par Blatter. On estime, alors, dans les indiscrétions, dans les propos tenus off hein, par les votants qu'on a pu rencontrer ça et là, et qui sont relativement discrets. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de parler, même off. Hein. Donc ça montre qu'il y a quand même une certaine tension. Les plus optimistes espèrent que Ahmad atteigne les 20 voix, ce qui serait déjà un succès, parce que dans les précédents scrutins où Issa Hayatou a eu une opposition, c'est-à-dire en 2004 et en 2000, eh bien, l'opposant, en l'occurrence l'Angolais Machado en 2000 et le Botswanais Bamji en 2004 n'avait recueilli que quelques voix, 4 ou 6. Donc vous voyez que l'écart était vraiment considérable. Donc 20 voix, ça serait déjà un succès en soi pour Ahmad. Et ça pourrait, comme on dit, faire bouger les lignes, en tout cas modifier un peu l'équilibre des forces au sein de la CAF.
À quelle heure, Christophe Jousset, c'est la question que se pose évidemment des milliers d'auditeurs, à quelle heure connaîtra-t-on le verdict ?
Écoutez, je viens de quitter la salle au moment où se terminait l'appel des délégués. Il y a encore une quinzaine de points abordés à l'ordre du jour, mais ce sont des rapports d'activité, des rapports de telle ou telle commission, donc tout ça peut aller très vite. Que vous dire ? Peut-être...
Dans l'heure ?
Peut-être... Non, ça sera trop tôt. A priori, ça devait être trop tôt. Mais franchement, ce serait aléatoire de vous proposer un horaire. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de rester à l'écoute de RFI.
Évidemment, et on sera à l'écoute des RFI avec vous. Christophe Jousset, envoyé spécial des RFI à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'on retrouvera cet après-midi toute l'équipe de Radio Foot International aux côtés d'Annie Gasnier à Addis Abeba pour une émission consacrée aux 60 de la Confédération africaine de football. On a répondu à vos questions, Fadel. Merci et on vous souhaite une bonne journée à Port-Gentil. 33 9 693 693 70. Dites-nous si la CAF, la Confédération africaine de football, a besoin d'un nouveau souffle. Êtes-vous pour ou contre un nouveau mandat d'Issa Hayatou ? Vous nous rejoignez et nous vous donnerons la parole dans 20 minutes. Intéressons-nous maintenant à la réforme constitutionnelle en Mauritanie. Ousmane nous appelle de Nouakchott. Bonjour Ousmane.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur notre antenne, vous avez plusieurs questions.
Ok, j'ai deux questions. En Mauritanie, le président a adopté ou proposé une réforme constitutionnelle qui est controversée et contestée par une grande majorité de l'opposition démocratique. Et je voudrais ainsi savoir, quelles seront les modifications qui seront apportées à cette constitution dans le projet? Et pour seconde question, pourquoi avoir choisi de passer par voie parlementaire plutôt que par faire référendaire?
Alors, précisons que pour l'instant, les députés ont adopté cette réforme constitutionnelle. C'est au tour maintenant des sénateurs de l'adopter ou non. Les sénateurs qui ont d'ailleurs commencé à examiner ce projet en début de semaine. Le vote devrait avoir lieu demain. Bonjour Marie-Pierre Olfant.
Bonjour Juan et bonjour Ousmane.
Journaliste au service Afrique d'RFI. Alors déjà, pour couper court à certaines inquiétudes exprimées ici et là ces derniers mois, la réforme constitutionnelle ne prévoit pas de modifier la limitation à deux mandats présidentiels. C'est vrai que certains craignaient que le président mauritanien en profite pour s'accrocher au pouvoir. Les principales modifications, je pense que la principale en tout cas, c'est le Sénat. Elle concerne le Sénat.
Oui, c'est la suppression tout simplement de cette chambre, hein, du Sénat, qui serait remplacée par des conseils régionaux qui auront de larges compétences, hein, sur le territoire et qui seront composés de conseillers élus au suffrage universel. Le pouvoir estime aujourd'hui que le Sénat et l'Assemblée jouent finalement plus ou moins le même rôle et que l'existence des deux chambres ralentit considérablement l'adoption des textes de loi. L'idée, c'est donc, avec ce nouveau texte, hein, de donner plus de pouvoir aux régions et de promouvoir le développement local avec ses conseils régionaux en lieu et place du Sénat. Autre institution vouée à disparaître si le texte est adopté, c'est la Haute Cour de justice, tout comme le Haut Conseil islamique qui doit être supprimé en tant qu'institution. Il est prévu qu'il soit intégré dans une autre institution existante qui s'appelle le Conseil supérieur de la fatwa et des recours gracieux.
Ouais. Y a d'autres mesures, plus symboliques, dirons-nous?
Oui, mesure symbolique, hein, le changement de drapeau. L'idée est d'ajouter deux bandes rouges horizontales au drapeau mauritanien existant. Ce drapeau aujourd'hui est composé d'un croissant de lune surmonté d'une étoile jaune, tout ça sur fond vert. Ces bandes rouges qui sont proposées, hein, ces nouvelles bandes rouges qui devraient faire leur apparition, une en haut, une en bas du drapeau, sont censées représenter le sang versé par les Mauritaniens pour défendre leur territoire. Et pour accompagner cette modification symbolique du drapeau, le changement d'hymne est aussi à l'ordre du jour pour qu'il prenne une dimension moins religieuse et plus patriote que l'hymne en vigueur aujourd'hui, avec des allusions à la résistance aux colons notamment, qui devraient faire leur apparition dans le nouvel hymne. Mais le changement d'hymne, il faut le préciser, lui-même ne requiert pas une modification de la Constitution, en tout cas pas le contenu de cet hymne qui n'est pas inscrit lui-même dans la Constitution. Voilà, pour l'essentiel de ces mesures, ces changements devraient améliorer la bonne marche des institutions du pays pour les autorités, c'est leur idée. Il faut juste rappeler et préciser que ces changements sont le fruit d'un dialogue politique qui s'est terminé à l'automne dernier, mais qui s'est déroulé sans la frange la plus dure, la plus radicale de l'opposition, sans la véritable opposition, si on peut dire, qui depuis d'ailleurs, hein, Ousmane en parlait, dénonce l'absence de consensus sur le texte et l'inutilité tout simplement de certains articles comme le drapeau, comme la modification du drapeau. La priorité n'est pas là, disent plusieurs opposants. Il y a d'autres urgences dans le pays.
Oui, l'opposition qui est vent debout contre cette réforme constitutionnelle, l'opposition qui a d'ailleurs organisé une manifestation samedi dernier, ils étaient plusieurs milliers, pour demander aux sénateurs de rejeter le texte. L'idée du référendum, Marie-Pierre, est-elle véritablement abandonnée comme l'affirme Ousmane?
Non, pas du tout. Hein. Alors, l'idée n'a pas été abandonnée. C'est pas parce qu'il y a un débat aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat que tout va se terminer là. Vous l'avez dit, à l'Assemblée, les députés ont voté. Les sénateurs, si nos informations sont bonnes, devraient voter demain. Et ensuite, pour être adopté, le projet va être soit soumis à référendum, soit à un congrès parlementaire, c'est-à-dire à nouveau au Sénat et à l'Assemblée, mais qui seront convoqués ensemble et qui voteront ensemble. Mais c'est le président, pour l'instant nous n'avons pas d'informations, c'est le président qui doit prendre cette décision, ou référendum, ou congrès parlementaire. Donc, à ce stade, un référendum n'est toujours pas exclu. Il peut très bien encore être organisé dans la foulée de ces premiers votes qui ont lieu ces jours-ci.
Merci beaucoup Marie-Pierre Olfant d'avoir répondu à Ousmane qui nous appelait de Nouakchott. Vous nous écoutez en Mauritanie. Dites-nous justement ce que vous pensez de cette réforme constitutionnelle. On peut en parler demain dans la Libre Antenne puisque le vendredi, vous le savez, vous commentez l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Vos questions, des questions sur la destitution de la présidente sud-coréenne. On vous en a beaucoup parlé sur l'antenne d'RFI. Vendredi dernier, les 8 juges de la Cour constitutionnelle ont confirmé la destitution de la présidente Park, destitution qui avait été votée, hein, par le Parlement en décembre dernier. Issa, bonjour.
Bonjour, Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Merci d'écouter RFI à Sévaré, dans le centre du Mali. On vous écoute.
J'ai apprécié les antennes de RFI la décision de la présidente sud-coréenne suite à un scandale de corruption. Alors, ma question est la suivante. Quelle sera l'avenue judiciaire de Mme Park puisqu'elle a perdu toute son immunité?
C'est vrai que depuis vendredi, elle a perdu l'immunité présidentielle qui la protégeait d'éventuelles poursuites. Juliette Morillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des deux Corées. On vous doit plusieurs ouvrages, notamment La Corée du Nord en 100 questions aux éditions Taillandier. La présidente, l'ex-présidente, faut l'appeler ainsi maintenant, Madame Park, est impliquée dans un scandale qui mêle, Issa le disait à l'instant, corruption, mais aussi trafic d'influence et chamanisme. Sera-t-elle jugée?
Oui, bien sûr, elle sera jugée et la Corée du Sud ne reculera pas du tout. Et c'est ce que demandent d'ailleurs les manifestants aujourd'hui. Vous avez probablement vu qu'il y avait des manifestations énormes entre partisans de Mme Park qui la défendent et autres partisans qui se réjouissent de sa destitution, mais qui demandent très clairement qu'elle aille en prison. Et quand je vous dis que la Corée du Sud ne reculera pas, c'est que ça pourrait créer un véritable chaos si on évitait justement ce jugement, et il y a des précédents. En 1996, Chun Do-hwan, qui n'était plus président à cette époque-là, a été condamné à mort. Donc la Corée ne reculera pas.
Ouais. En tout cas, elle nie les faits. Dimanche dernier, on a pu voir sur les écrans de télévision sud-coréens la présidente quitter, on va dire le palais présidentiel, mais s'adressant à la foule qui était venue pour la soutenir. La vérité sera connue un jour. Elle sera convoquée dès la semaine prochaine, il me semble, devant les juges. Elle sera donc interrogée. Ensuite, quelle sera la suite? Comment va se dérouler l'avenir judiciaire de Mme Park?
Eh bien, il y a une enquête énorme qui a déjà été lancée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ses premières déclarations, souvenez-vous, tout au début du scandale, elle avait présenté des excuses, reconnu sa culpabilité, maintenant elle freine des cas de fer, et vous avez raison de souligner que là, elle a quitté le palais présidentiel, mais elle a marqué très nettement sa position en disant que la vérité serait connue, mais aussi en n'obéissant pas à la loi, puisque normalement, elle devait quitter le palais présidentiel, c'est-à-dire la Maison Bleue, immédiatement après la destitution, et elle a, par défi, attendu 2 jours. Donc, ça montre un petit peu la ligne de ses avocats qui vont essayer, bien évidemment, mais je pense que ça n'aboutira pas, qui vont essayer de la blanchir. Ça n'aboutira pas parce que le scandale implique non seulement la présidente, mais un certain nombre de ministres, mais aussi les fameux conglomérats, les Chaebol, Samsung, par exemple, qui est impliqué. Donc, ça va être le feuilleton politico-judiciaire de ces prochaines mois, de ces prochains mois ou années.
Ouais. Merci beaucoup, Juliette Morillo, d'avoir répondu une fois de plus à une des questions de nos auditeurs, la Corée du Sud. En tout cas, ce feuilleton passionne les auditeurs au regard des questions que nous recevons au standard. Merci à vous et un grand merci à Issa qui nous appelait donc de Sévaré. On avait prévu d'autres questions ce matin. Ne vous inquiétez pas, et là je m'adresse aux auditeurs qui étaient déjà en attente. Nous vous rappellerons demain, au plus tard lundi, pour vous répondre. Mais c'est vrai qu'on a pris du temps ce matin avec Christophe Jousset pour essayer de voir quelles étaient concrètement les chances d'Ahmad Ahmad, l'homme qui ose faire face à Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football. En ce moment même, les présidents des fédérations sont réunis à Addis Abeba au siège de l'Union, au siège de la CAF. Évidemment, il sera de l'Union africaine, pardon. Il sera question de voter dans les prochaines minutes pour un nouveau président. Issa Hayatou va-t-il rempiler? Sera-t-il réélu pour un 8e mandat? Êtes-vous pour ou contre d'ailleurs ce 8e mandat? 33 9 693 693 70. Appelez-nous sur Facebook. Nous avons par exemple Mamadou qui nous dit: nous avons besoin de changement. Nous voulons la renaissance du football africain. Ahmed estime que il faut en finir avec le copinage à la tête de la Confédération africaine. Donc vous le voyez, les critiques. Mondoblog.